wonder about you. Are you raising or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Clémence Poletti, Jean-Christophe Briançon et François Angelier. Clémence, qui avait fait une dispute tout à fait spéciale avec quelques-uns des jurés du prix du livre étudiant, qui revient et qui reviendra désormais, rejoignant ainsi notre petite équipe de critiques. Bienvenue à elle. À notre sommaire, les pierres de Claudio Morandini chez Anacarsis. Pas que je me trompe sur le nom de l'éditeur. Je m'en excuse auprès de lui, je m'étais trompé dans mon programme. Comme la chienne de Louise Chennevière chez POL, il y aura un coup de cœur de François Angelier pour Une guerre civile par procuration, les intellectuels français et la guerre d'Espagne de Pierre-Frédéric Charpentier aux éditions du Fénin. Il y aura également un petit salon de Jean-Christophe Briançon, Lucine Comeau étant en vacances cette semaine. Heureuse femme. Jean-Christophe, ce petit salon sera consacré, ça ne m'étonne pas de vous, à la transgression. Et nous ouvrons cette dispute avec Les pierres de Claudio Morandini, publié chez, vous allez le dire bien vous, François Angelier,
Anacarsis.
Alors moi je ne connaissais pas cet auteur que vous avez proposé à notre sommaire et je vous en remercie déjà, ce qui donne une indication sur ma lecture. Est-ce que vous aviez lu son précédent livre publié en France, Le chien, la neige, un pied, qui est déjà un titre merveilleux?
Non, je n'avais pas lu, je vais être franc, mais par contre j'ai été retenu, harponné, hameçonné, tout ce que vous voulez, par la quatrième de couverture des pierres, et je connaissais
mince,
déjà...
Mince, je ne lis jamais moi, vous ne pouvez pas nous la lire, tiens, elle est longue ou pas?
Non, ça va. Dans un pays de montagne, les habitants des villages jumeaux de Sostigno en bas et de Testagno en haut sont confrontés à un phénomène étrange. Les pierres, rocs, cailloux, gravillons et autres galets de rivière se meuvent de par une volonté qui leur semble propre.
Et c'est ça qui vous donne envie, évidemment,
de lire. Moi, immédiatement, je suis mobilisé, et d'autant plus que je connaissais Anacarsis pour ses autres publications. Notamment des récits de voyage, c'est des gens qui ont une très 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 beau catalogue de récits de voyage, époque médiévale, moderne, surtout des choses aussi également autour de la culture indienne, l'Amérique du Nord, et puis qu'avait édité Mika Birman, personnage aussi très singulier. Donc
tout
les pour vous plaire. Voyants étaient au vert pour que je me précipitât sur ces pierres.
Les pierres de Claudio Morandini, publié donc chez Anacarsis dans une traduction de Laura Brignon. Avant de parler de ce livre et d'en écouter un extrait, un résumé de votre sentiment, alors, François Angelier.
Pierre qui roule nous colle la frousse.
Bon, d'accord. Clémence Pouletti.
Je trouve ça très, très drôle.
Et Jean-Christophe Briançon.
Moi, je parlerais d'un beau voyage en littérature. Oh. Aujourd'hui, on les envie, nos anciens. Il y a un demi-siècle encore, ils allaient et venaient une seule fois par an entre Sostigno, le village dans la vallée, et Testagno, le village sur les hauteurs, et ils passaient l'été là-haut, parmi les pâturages les plus en altitude, en dessous des cimes, les derniers avec de la bonne herbe, et l'hiver en bas, dans les maisons à côté de la rivière, parmi les champs et les cailloux de la plaine. Autrefois, ainsi allaient les choses. Les anciens le racontent jusqu'à plus soif le soir à la veillée. D'ailleurs, nous aussi, on se souvient de quand on était petit. La vie était plus facile, sans ambiguïté. 6 mois en haut, 6 mois en bas. Ce qui est arrivé ensuite, on se le demande tous un peu, le soir à la veillée, jusqu'à plus soif, et on essaie de remonter le temps par la pensée pour trouver le point exact où la belle linéarité toute simple de la vie d'autrefois s'est entortillée et où tout est devenu instable. Vous autres de la ville, dire qu'il n'y a plus de saison, ça vous suffit. Vous croyez qu'avec ça, vous vous êtes remué les méninges. Ça vous suffit de vous plaindre du temps qui n'est plus le même, de la neige en plein été, des averses torrentielles qui balaient des parkings entiers et remplissent les caves de boue. Il n'y a plus de saison, vous dites, ou plus de demi-saison si vraiment vous êtes en veine de subtilité. Mais c'est facile, trop facile. Nous autres, on a toujours vécu au rythme des saisons et on s'est aperçu que ce n'est pas qu'il n'y a plus de saison. Au contraire, Il y en a trop. Entassées les unes sur les autres, elles se relaient à toute allure, comme si c'était des mois ou des semaines. À cause de ça, maintenant on est obligé de rassembler nos affaires à la va-vite, de sortir les bêtes de l'étable et de monter vers Testagno ou de descendre vers Sostigno. Ça dépend d'où on est. Comme ça, de but en blanc, comme des fous. Il y a trop de saisons. C'est ça le problème. Trop de saisons toutes mélangées.
Après cette belle lecture de Boris Spino, du début des pierres de Claudio Morandini, on va comprendre très vite, vous l'avez d'ailleurs dit en lisant la quatrième de couverture, qu'il n'y a pas que les saisons qui soient instables dans ce coin-là, les pierres aussi,
oui.
Ô combien, qui ont en effet leur vie propre, et tout ça va nous être raconté. Bah, comment d'ailleurs, François Angelier, comment on y rentre dans ce roman?
Je vais partir du précédent là, que le chien, la neige, un pied, qui raconte l'histoire d'un homme qui vit seul dans la montagne, une espèce d'ermite, et qui, avec la fonte des neiges, un jour découvre dans cet univers figé, rythmé par toujours les mêmes habitudes, un pied humain. Donc c'est dans un univers où il ne se passe pas grand chose, un monde immobile, immobilisé par le climat et les éléments, un événement a lieu qui brusquement perturbe tout. Et là c'est un peu pareil, donc nous sommes dans cette communauté villageoise entre Sostigno le bas et Testagno le haut, avec la transhumance des vaches, une communauté paysanne qui vit à son rythme, sans problème, et qui est un peu la nouveauté, c'était l'arrivée de ces retraités de la ville, les Torre, Agnese, Saponara. Et brusquement, les choses se déclenchent et les pierres, tout ce qui est minéral, commence à s'accumuler, à apparaître, à grandir et à brusquer. Et là, on entre dans un processus un peu catastrophique où les pierres s'accumulent, se mettent à vivre de leur vie propre et créent une perturbation. Alors notamment dans le salon des Saponara, qui devient un lieu totalement
tout commence là.
Totalement, on peut plus s'en servir. Cette pièce est condamnée et puis ça va jusqu'à un éboulement colossal qui submerge toutes le cheptel et les vaches de la communauté paysanne. Donc d'une certaine façon, c'est ça. C'est l'histoire de cette espèce de colossale invasion d'un village par les pierres. Et tout cela se fait peu à peu et de manière catastrophique, mais avec un sens du rythme et de la progression très, très étonnant.
Clémence Poletti, premier regard un peu développé cette fois sur les pierres. Est-ce que vous êtes entrée facilement dans cet univers?
Alors oui, au début j'étais un peu surprise. Je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que c'est? En lisant la quatrième de couverture, j'étais très étonnée. Et en fait, je suis très vite rentrée dedans. J'ai lu très rapidement ce livre. J'ai lu comme une espèce de petit conte. J'ai l'impression qu'on me racontait une histoire, une légende de village. J'aime beaucoup ça. C'était un peu régressif, un petit peu enfantin pour moi au départ. Je me suis très vite attachée. Alors, je ne sais pas comment prononcer leur nom. Agnese et Torre.
Agnese.
D'accord.
Et Torre.
Je les ai trouvés très attendrissants, ce petit couple qui vit cette petite catastrophe dans son salon. Et j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis complètement fan aussi des adresses aux lecteurs qu'ils font tout le temps. Alors que tout à l'heure, un petit peu moins, mais ici, j'ai beaucoup aimé. Et que dire de plus? J'ai eu de vrais fous rires, et notamment quand il parle des journaux, l'inspiration le samedi, la petite bataille entre les deux, le prêtre aussi m'a fait rire. Donc j'ai vraiment beaucoup, je trouve ça fantasque, et évidemment un petit peu cruel, surtout à la fin, sans vouloir rien dire. Gâché, mais non, c'est très drôle. J'ai passé un très bon moment en lisant et il m'a servi de soupape de décompression après, comme la chienne d'ailleurs.
Bon, ça, nous on fait dans l'autre ordre.
Oui, ce soir. Désolé.
Je vous dirai pourquoi vous avez eu beaucoup de pression sur le deuxième livre à notre sommaire. Jean-Christophe Brianchon, votre entrée en Morandini.
Bah, c'est très drôle aussi, et d'ailleurs, l'entrée se passe dès l'épigraphe qui est à mourir de rire. Selon moi, puisque c'est un épigraphe qui nous dit « Enfin, pensa le caillou, on me remarque ». Et donc ça m'a fait de base beaucoup rire, je suis entré là-dedans avec beaucoup d'envie. Et puis au fil des pages, le livre se crée un peu devant nos yeux, comme le drame se déroule, de manière très fine, effectivement aussi, comme vous le disiez tous les deux. C'est à la fois cet humour-là qui se développe, mais aussi le drame, un drame social, un drame surréaliste, un drame qui a plein de facettes, qui nous amènent dans plein d'endroits où l'auteur marche toujours sur un fil sans jamais en tomber, un fil qu'il crée lui-même, qui n'existe pas quasiment. On a ce fil entre le surréalisme et l'ultra-réalisme, au contraire. C'est donc assez passionnant, et d'autant plus passionnant que cet auteur-là ne refuse jamais, absolument jamais, c'est pour ça que je parlais d'un beau voyage en littérature, de faire de la littérature, justement. Il est pleinement là pour s'accaparer un fait qu'il a inventé, qui a priori n'est pas possible, n'est pas réaliste, pour faire littérature. l'écriture. Et ça, c'est quelque chose, on en parlera plus tard avec, j'imagine, comme la chaîne et puis ensuite le petit salon aussi. Je pense que tout ça rentre en résonance. C'est assez rare aujourd'hui d'avoir un auteur qui prend autant de plaisir et nous donne autant de plaisir à faire vraiment de la littérature.
Oui, parce que c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que, aurais-je lu, si je puis dire, à l'aveugle, ce qui serait compliqué, mais en tout cas sans avoir le titre, l'auteur, l'année, j'aurais vraiment été en peine de dater l'écriture de ce roman, parce qu'on a quand même la sensation, alors vous dites vous avez surréalisme et ultra réaliste, ça donne quand même du réalisme magique d'une certaine façon, il y a quand même cette veine là, et je me suis dit bon, bah, Calvino et Giono ont eu un enfant qui est passé en Amérique
ça
du Sud,
à Calvino,
et il y a quelque chose comme ça, mais avec du coup une sorte de littérature de classicisme, c'est-à-dire de prendre des formes existantes, effectivement le conte, pour nous amener vers tout à fait des choses tout à fait étranges, et en même temps on se dit où sont les indices, qu'est-ce qu'il faut comprendre, parce que la première fois que les pierres sont méchantes, c'est quand même contre un curé, ce qui ne vous aura pas échappé, mon cher François Angelier.
Voilà un intérêt supplémentaire. Oui, mais non, tout à fait, on pense aussi à
Ramu. Un curé lapidé. Hein.
À Ramu, ouais. Tous ces portraits de communautés montagnardes un peu refermées sur elles-mêmes et qui sont ouvertes comme un fruit, comme ça, là, par un événement qu'elles ne peuvent pas maîtriser. Et moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est évidemment une fois que la situation est embrayée et que les Saponara sont au cœur du drame, au point même de devenir un peu des maudits dans la communauté, il faut mobiliser quand même des ripostes contre ce phénomène d'invasion minérale. Et donc là, on voit arriver des personnages extraordinaires. Il y a Pépé Ramalia, le guérisseur, là, qui à un moment casse la pierre en deux en se disant « Je vais casser la pierre en deux devant les autres pierres, comme ça elles diront que je n'ai peur de rien et que si elles font les méchantes, je vais leur casser aussi la tête. » Les casser en deux. Donc il veut intimider les
logique.
Pierres. Voilà, ce qui se défend. Ouais. Il y a le mage Zorbas Satrapos qui lui aussi tente d'exorciser la maison. Et là, il y a une page et demie extraordinaire où les gravillons, les pierres, les poussières, les cailloux grimpent dans les manches de sa veste et dans les pentes, dans ses pantalons. Et alors, il est démangé comme ça. C'est une scène très étonnante. Il y a Don Danilo, le curé. Et puis, Madame Malinoro qui finit par faire comme Delteil de la soupe aux cailloux. Puisqu'il n'y a plus que des cailloux. Donc, elle fait une sorte de ratatouille de pierre qu'elle essaie de, et puis effectivement, ça devient de plus en plus pierre et de moins en moins ratatouille. Et je crois qu'elle meurt devant sa gamelle.
Alors, c'est vrai que je dis que difficile de dater cette écriture. En même temps, alors j'ai sous les yeux la belle notice biographique de Claudio Morandini, qui est né en 1960 à Aoste, ce qui est quand même déjà très, très chic et très goûtu de sa part. Mais c'est vrai qu'il y a cette sensation, Jean-Christophe Brianchon, de ne pas savoir tout à fait ce qu'on a entre les mains.
Non, on ne sait pas ce qu'on a entre les mains, et ça va chercher un petit peu partout, mais en même temps sans être jamais dans l'emprunt.
Oui, non, c'est ni un pastiche, ni un emprunt, ni à la manière de.
Et pourtant, parce que là, on essaye de mettre des mots, on a parfois un petit peu de mal, et ces mots-là sont effectivement référencés en termes de littérature. Moi, ça m'a aussi fait penser d'une certaine façon au symbolisme, mais pas au symbolisme tel qu'on peut l'entendre avec Maeterlinck ou ce genre d'auteur, non. Mais il y a quand même une forme de symbolisme aussi, vous le disiez, on cherche des indices, des choses qui peuvent nous démontrer ce que ça peut vouloir dire, ou éventuellement ce à quoi ça peut se référer. C'est assez compliqué, on sait pas ce qu'on a entre les mains. On sait pas ce qu'on a, si ce n'est qu'on a l'œuvre d'un auteur réellement qui n'a pas pastiché, justement. On a quelqu'un qui a, comme je le disais tout à l'heure, créé sa ligne sur laquelle il marche, sur laquelle il écrit. Et ce qui fait que, justement, on a peut-être un peu de mal à le décrire, ou en tout cas à le rattacher, si on doit le rattacher en tant qu'exercice critique, le rattacher à un courant, à une pensée, à quelque chose, c'est très compliqué.
Il y a aussi quand même cette question, Clémence Pouletti, quand voilà, nos auditrices et auditeurs nous entendent parler de ce livre, de ce point de départ assez étrange, on peut se demander, ils peuvent se demander, et on ne va pas divulgâcher bien sûr, si tout ça va nous conduire quelque part, est-ce qu'on peut être déçu de ce genre de lecture d'ailleurs qui fait craindre cela, on se dit, bon, on part sur un postulat qui est quand même assez particulier. Est-ce que à la fin, on va être satisfait? Alors, le taux de satisfaction de Clémence Pouletti sur la lecture des pierres?
Très élevé. Après, je pense que l'important, c'est pas le but de la destination, c'est le voyage, évidemment.
Et là, c'est vrai, mais quand même, moi, j'aime bien arriver quelque part, moi.
Bah alors là, pour le coup, moi, je ne me suis pas posé cette question en le lisant lui, parce que j'étais bien avec eux, j'étais bien avec ce petit couple, et aussi, j'aime beaucoup l'absurde. Et là, il va jusqu'au bout dans l'absurde. Parfois même, enfin, là, j'y pense comme ça, mais parfois, j'ai pensé pense à Éric Chevillard aussi. Et moi, j'aime beaucoup Éric Chevillard. Et parfois, on va nulle part avec lui, mais on y va quand même. Et là, je me suis pas posé cette question-là. J'y suis allée, j'ai ri, ça m'a plu. Et la fin, non, j'ai pas été déçue de la fin. Vous avez été déçue de la fin ?
Non.
Ah.
Et vous, Jean-Christophe Briançon, votre taux de satisfaction ? On va lancer ça maintenant, de toute satisfaction de lecture. Ouais.
On peut mettre des virgules, c'est ça qui est bien.
Ouais. Assez élevé aussi, mais...
Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on attend comme ça, oui, parce que quand on lit ce genre de livre, on se demande où est-ce qu'on
va. C'est pas effectivement, la démarche n'est pas téléologique, quoi. On court pas vers quelque chose, mais pour autant, c'est là que je parlais aussi de symbolisme, c'est que l'histoire est chargée toujours de petits éléments qui nous permettent de comprendre finalement où on va, où on est déjà, en fait. Puisqu'il y a quand même un côté portrait de quelque chose qui s'en va. La pierre est en morceaux toujours. Le village se détruit petit à petit, se détruit puis reconstruit par ses habitants, etc. Bon, il y a quand même toujours quelque chose d'assez nostalgique, un fond nostalgique qui nous montre un monde qui va ni bien ni mal, mais qui en tout cas avance et avance aussi en se détruisant.
Et notre exégète en chef, François Angeli, je suis sûr, quand vous lisez les pierres, vous cherchez les signes, les secrets.
Oui, mais je serais assez d'accord avec notre ami. C'est un peu comme le boléro de Ravel. Vous remontez un mécanisme comme ça, et puis le mécanisme se déroule d'un point A à un point B, et après ça s'arrête, la machine s'arrête, vous la remontez et vous faites jouer. C'est un roman qu'on fait un peu jouer, comme on fait jouer une mécanique, une boîte à musique ou un automate, comme ça. Il y a cette espèce de narration parfaite, avec un certain nombre d'événements d'un point A à un point B. Effectivement, il n'y a pas non plus un final comme ça prescrit, mais c'est très agréable à ce titre, et c'est ce qui fait les contes. C'est-à-dire que le conte, ça peut se rejouer infiniment.
C'est une histoire qui mériterait d'être racontée à des enfants avant qu'ils s'endorment. Quoi.
Moi, je l'ai lu comme ça. En plus, comme il fait beaucoup d'adresses au lecteur, qui raconte des petits détails, moi j'aime beaucoup ces parenthèses, je trouve ça délicieux. Les petites parenthèses de petits détails dont en fait on n'a rien à fiche, qui n'avance rien à l'histoire.
Ou je vous en dirai peut-être plus sur telle personne plus tard.
Oui, jamais.
On attend toujours. Parce qu'en plus, on ne sait jamais dans quelle temporalité on est. La narration, elle est quand même très mystérieuse aussi. Elle joue avec nous.
Oui, avec quand même des petits clins d'œil. C'est vrai qu'avec des petits clins d'œil au présent et à notre période contemporaine, mais c'est ça qui m'a plu. Et le côté vraiment très... Moi, j'ai régressé, vraiment. Je me suis prise pour une petite enfant.
Déjà que vous n'êtes pas bien vieille, ma chère Clémence Poletti. Je ne sais pas quel âge vous a donné les pierres.
Encore plus jeune.
Encore plus jeune. Bon, alors si vous voulez rajeunir, lisez les pierres. Je crois que c'est meilleur. Vous pouvez faire un bandeau. On prévient tout de suite un Carsis de faire un nouveau bandeau pour rajeunir. Lisez les pierres de Claudio Morandini. C'est donc dans une traduction de Laura Brignon. À suivre dans la dispute, on va changer de genre. Hein. Comme la chienne de Louise Chennevière chez POL, un coup de cœur de François Angelier pour un monumental livre concernant les intellectuels français et la guerre d'Espagne. Ce sera dans quelques minutes. Et puis un petit salon de Jean-Christophe Briançon.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la littérature avec Comme la chienne de Louise Chennevière chez POL. Un premier tour rapide de table pour résumer vos impressions sur ce livre. Clémence Poletti.
Mitigé.
Jean-Christophe Briançon.
Un exercice de style un peu vain.
François Angelier.
La parade sauvage de la féminité.
Comment vous dites ? Pardon ?
La parade sauvage de la féminité.
Clémence, vous allez nous éclairer et nous dire de quoi est constitué ce livre avant que nous en entendions un extrait.
Alors, ce livre est constitué de plusieurs textes sur la femme, son corps, et c'est surtout la femme dans ce qu'il y a de pire, de triste et de violent, dans tout ce qu'elle subit. On va tant des viols subis à l'IVG subie à la violence de l'homme et aussi de la femme. On parle aussi de la relation entre sœurs, entre mères, entre amies. Et c'est assez difficile.
Un exemple, un fragment de ce livre lu par Joséphine Dumoulin.
C'est pas qu'elle déteste la vie, non. Pas exactement. C'est juste qu'il y a toujours eu dans sa vie, quelque chose qui prenait trop de place. Ce quelque chose, c'est elle. Elle s'imagine parfois la vie dans un autre corps que ce corps-là, haï, mutilé, qui n'en peut plus. Elle n'en veut plus. Elle ne veut rien d'autre que s'en débarrasser au coin d'un jour, comme on abandonne une chienne sur le bord de la route, sans se retourner. Mais on l'aime. Alors on veille à ce qu'elle n'y parvienne pas. On la maintient, si ce n'est en vie, du moins dans ce corps. Ce corps qui, à force de n'avoir pas servi, de n'avoir pas fait l'amour, de n'avoir pas dansé, de ne pas s'être baigné dans les vagues, de n'avoir plus senti le soleil chauffer sur sa peau, n'en était plus un, rien qu'une pauvre enveloppe, si mince et si pesante pourtant. Ce corps si froid, presque glacé, qui voudrait seulement glisser dans l'invisible. Mais ce corps que tout le monde regarde, juge, quand lentement, elle marche dans la rue. Ce corps que l'on observe, mesure, examine. Et elle-même qui se guette, s'épie, comme on surveille un ennemi. Son propre corps pourtant, et qui la surprend au coin d'une rue, au détour d'un reflet, envahissant un instant l'univers tout entier. Oui, depuis longtemps, l'univers n'est plus que cela, son corps. Et la mort y rôde comme chez elle. Le monde n'est plus qu'un squelette. Elle se demande encore comment font les autres pour vivre avec ça, un corps, parfois, en regardant simplement les gens marcher dans la rue. Comme si c'était si simple, marcher. Et comme si ça ne coûtait rien, se lever et courir, s'étirer et danser. Et pourquoi elle n'y arrivera jamais? Et elle a questionné les psys, les médecins et sa mère. Toujours, on lui a répondu que ce n'était pas de sa faute à elle. Que c'était normal de ne pas parvenir à exister après ça. Oui, c'est normal. C'était juste la pénétration dans son corps de son père, une nuit, enfant. Et son corps qui n'existe pas sans cette nuit-là.
Voilà pour cet extrait de « Comme la chienne » de Louise Chennevière. Alors Clémence Politi, vous allez pouvoir développer maintenant votre sentiment sur ce livre.
Alors, je suis bien embêtée. D'abord parce que c'est moi qui ai proposé ce livre. J'aime beaucoup P.O.L. J'ai fait un premier roman d'une certaine Louise. J'ai été tout de suite happée. La couverture, la quatrième de couverture m'a beaucoup plu. Et puis quand je l'ai ouvert, j'ai adoré les épigraphes quand même. Enfin, combiner Annie Ernaux et le Marquis de Sade, que j'adore. De Sade, de la philosophie dans le boudoir, la destinée...
Alors doucement, quand on lit... Tout va bien.
C'est vrai. La destinée de la femme est d'être comme la chienne, comme la louve. Elle doit appartenir à tous ceux qui veulent d'elle. Donc ça, c'était Sade. Et Annie Ernaux dans La femme gelée. Je flotte. Un de nos mots courants entre filles pour désigner cette drôle de torpeur certains jours. La sensation d'être inconsistante, pas réelle. Donc c'est très plaisant. C'est plein de promesses.
Ouais.
Et en fait... Ce qu'il y a, c'est que j'ai compris le geste littéraire, j'ai compris la nécessité pour cette autrice d'écrire ce livre. On sent une véritable sincérité, on a l'impression qu'elle le sort complètement de son ventre, du creux de ses entrailles. Mais voilà, pour moi, c'était une lecture très douloureuse. J'ai eu du mal, j'ai lu les 110 premières pages d'un coup, et après j'ai dû arrêter, me calmer, lire autre chose. Et ça a été douloureux d'y revenir. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je disais, c'est vraiment la femme dans ce qu'il y a de pire, alors que... Bon, c'est quand même bien d'être une femme. Et à la fin du livre, je ne l'ai pas retrouvée. Et là, c'est ce qu'il y a de pire. Et je ne sais pas comment expliquer. J'ai eu du mal à le lire. Et certes, je le conseille, mais à la limite, je le conseillerais peut-être plus aux hommes qu'aux femmes. Parce que j'ai l'impression qu'en tant que femme, on est au courant de tout ça, puisqu'on le vit et qu'on le subit. Pas forcément tout le temps non plus. Il ne faut pas extrapoler, exagérer. J'ai compris que c'était un geste littéraire. Mais peut-être aux hommes, pour un peu mieux nous comprendre, à la limite, dans cette idée-là. Mais c'était dur. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve que c'était dur.
Échantillon non représentatif d'hommes, numéro 1, Jean-Christophe Brianchon.
Alors, c'est amusant que vous ayez commencé par les épigraphes, parce que c'est peut-être a posteriori ce qui m'a dérangé, en fin de compte. Puisque dans la posture qui est la sienne, elle aussi, entre la jeune femme, mais qui pourrait être un homme, qui dépeint un monde... un monde qui va et qui manifestement va mal, et puis de l'autre côté la posture de réellement de femme qui décrit l'objectivité avec objectivité une situation qui est celle des femmes aujourd'hui, l'inégalité des sexes, etc. Bon, et donc le problème c'est que selon moi dans cet exercice ne finit par apparaître que celui de la jeune femme qui me décrit le monde qui va mal et beaucoup moins ce dans quoi elle s'inscrit finalement par l'épigraphe en citant Annie Ernaux, beaucoup moins la situation de femme qu'elle est en fin de compte. Et ça aussi tient du fait de la forme du récit puisqu'il s'agit, comme on l'a dit, de plusieurs histoires qui retracent le parcours de différentes femmes. Et le fait de ne pas s'ancrer dans une histoire de femme, nous emmène vers ce que je disais au départ, une sorte d'exercice de style dont je finis même par penser qu'il peut être un exercice à tel point qu'il ne sorte pas tant que ça des entrailles de la personne, puisque finalement, elle en a écrit, je ne sais pas, 50, elle aurait pu en écrire 200. Toujours bien, parce qu'il faut dire qu'elle écrit bien et que ses phrases sont belles. C'est peut-être bête à dire, mais les mots sont beaux et sont choisis. C'est toujours très émouvant. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'elle aurait pu en pondre 150 de plus, finalement, avec une sincérité peut-être un peu feinte. Je ne sais pas.
François Angelier, homme représentatif numéro 2.
J'espère que je ne suis pas représentatif, parce que sinon, mon Dieu. Alors, moi, je trouve que la clé du parcours, elle est donnée page 248, c'est-à-dire à la fin, avec cette phrase, « Tu ouvres à nouveau les yeux, tu ne sais ni l'heure ni le jour. » C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que c'est un enchaînement de cauchemars, de visions, d'hallucinations, d'angoisses, qui s'incarnent à chaque fois dans un aspect particulier des turpitudes féminines. Alors, la prostitution, la folie, le viol, l'inceste, la mort, tout ça. Et tout cela est raconté et vécu à la première personne, mais d'une part, ça n'est pas une littérature expérimentale, c'est-à-dire qu'on sent très vite que c'est quelque chose qui est un petit peu vécu au deuxième degré. Et les choses s'enchaînent, et ce qui fait qu'il y a effectivement, avec cet enchaînement, une violence qui devient assez, qui se sature elle-même, qui devient assez étouffante, assez insupportable. Et je suis d'accord avec cette idée qu'au milieu du livre, on est obligé un peu de poser le sac, comme on dit. Mais une fois le livre terminé, cette espèce d'effet derviche, cette espèce de tournoiement permanent, de carrousel des horreurs, des maléfices féminins, retombe. C'est-à-dire que moi, après, j'ai eu le sentiment un peu comme de la mousse. J'ai plus de scènes vraiment marquantes, de paroles déterminantes, de moments que je garde. C'est plutôt une sorte d'effet de tournoiement, comme ça, de grand huit de la souffrance féminine. Et après, on repart, on pense à une autre attraction. J'ai été un peu déçu sur ce plan, mais c'est vrai que c'est assez virtuose. C'est vrai que les phrases sont belles, mais... Voilà.
Moi, ça m'a hanté. Complètement, ça m'a hanté. J'ai encore des phrases, des scènes qui me reviennent. Et, et aussi, il y a un moment dans le livre, justement, c'est à la page 110, quand je me suis arrêtée. Il y a un moment dans le livre qui est enfin mignon, enfin beau, on souffle un coup, et paf, la fin du texte, c'est terrible. Mais c'est ça tout le temps, et je suis étonnée que ça ne vous ait pas un peu plus suivi. Une fois refermé, moi, il a continué de me suivre. Et aussi, je voulais dire qu'il m'a fait penser à plusieurs autrices françaises, notamment, évidemment, à Virginie Despentes, on y pense tout de suite, et dans la violence des mots, de tout ça, mais aussi à Nina Léger et à Carole Fives, parce qu'elle parle aussi de la relation à la mère, et j'ai pensé à Une femme au téléphone de Carole Fives à un moment, toutes les petits textes sur la mère en hôpital psychiatrique, tout ça. Donc ça, c'est aussi très intéressant, une autre facette de la femme. Et je voulais dire une dernière chose.
Non, mais allez-y.
C'est que... Mais il y avait mille choses à dire sur ce livre.
Mais on a le temps, ça va.
C'est que, autant dans Les Pierres, les adresses au lecteur, j'en étais folle, autant là, tous les premiers chapitres qu'elle commence avec ce « tu devrais », »,« tu dois », ça me mettait tellement mal à l'aise. J'avais vraiment envie de dire « Ah non, mais je n'ai rien à faire ici, je ne peux pas en être, laissez-moi tranquille. » Non, c'était terrible.
Alors, mais... Pour dire les choses, alors pour repartir sur la forme d'abord, on vous dit des très belles phrases. Moi j'ai quand même beaucoup de mal, parce qu'il y a quand même des affaîtries.
Des phrases qui sont construites en gimmick.
Non mais il y a des affaîtries, il y a par exemple un problème de ponctuation quand même énorme de la place des virgules. Mais il t'a fallu, accepter le silence et l'endurer. Je ne comprends pas la place de cette virgule.
Ah, mais
et ça, c'est tout
ça,
le temps. Moi,
oui,
ne cherche
temps,
pas à deux points, oui, passer de l'autre côté. Ah oui, ça vous dérange pas les virgules qui sont mal placées.
C'est plutôt dramatique,
moi, j'ai trouvé ça très intéressant, au contraire. C'est peut-être une des choses qui m'a le plus intéressé dans ce livre, même justement. Cette ponctuation qui, effectivement, est supposément erronée. Enfin, en tout cas, oui.
Et ça produit quoi chez vous? Moi, ça produit d'agacement, c'est pour ça.
Chez moi, ça a produit un rythme et une violence que le livre n'aurait pas eu si la ponctuation avait été autre. Si la ponctuation avait été plus classique, il n'y aurait pas eu cet effet de... quasiment un effet de scansion, en fait. Je l'entends, je pourrais quasiment entendre certains de ces textes être rappés ou être chantés de manière un peu violente. Et c'est cette ponctuation qui m'a permis de le ressentir comme tel.
Oui, et puis il y a quand même aussi... il y a des sections... Les textes sont regroupés par sections.
Alors, des sections complètement un peu à l'avenant. Hein.
À l'avenant, oui.
Oui, ça, c'est pas très convaincant.
Mais en même temps, moi, j'ai noté que la section morte, quoique vivante, qui commence page 69, était quand même une collection de clichés. J'ai trouvé quand même assez étourdissant et qui affadissait le propos, alors que les 68 premières pages, si je puis dire, étaient quand même des choses plus fortes. Ça revient par la suite, mais il y avait vraiment des grands coups de mou, me semble-t-il, dans cette. Je pense que la sélection n'a pas été assez grande. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup interrogé. Il y a une autre affaîtrée que j'arrive pas à retrouver là, mais je vais la retrouver d'ici la fin de cette émission, qui est le toujours jamais né, toujours.
J'ai trouvé ça assez agréable, mais l'insistance est un peu pénible.
Alors du coup, mais ça m'a beaucoup intrigué, donc j'ai été sur le site des éditions POL qui font toujours, vous savez, des vidéos avec les auteurs et les autrices qui présentent leurs textes. Et du coup, je trouvais intéressant d'écouter Louise Chennevière raconter cela. Elle disait que ces textes sont venus un peu presque malgré elle, qu'ils se sont accumulés, qu'ils sont venus. Ça a duré 3-4 ans et qu'elle s'est retrouvée avec toute cette... collection, si je puis dire, de petits textes. Oui, François Genier.
À ce titre, ça pose le même problème que le livre de Paul Preciado, dont on parlait il y a quelque temps, qui est une suite de chroniques qui ne s'enchaînaient pas d'un jour après l'autre dans le temps, et qui rassemblaient, créaient par moi un effet de saturation. Et là, on a un peu ce sentiment, c'est-à-dire qu'on est confronté à chaque page, à chaque section, à des textes paroxystiques. Et le paroxysme succédant au paroxysme, ça finit par créer un effet de saturation qui fait que la puissance dramatique retombe un peu.
Complètement.
Jean-Christophe Briançon.
Je suis tout à fait d'accord avec François. Et par ailleurs, Clémence, vous parliez de d'autres autrices auxquelles ça a pu vous faire penser. Moi, c'est aussi ce que je reproche d'une certaine manière à ce livre, mais pas à l'auteur. C'est plus peut-être une question d'édition, je ne sais pas. C'est de participer à tout un mouvement d'un télo un peu énervé qui viennent comme ça nous dévoiler quelque chose sur ce monde merdique dans lequel on vit, supposément. Bon, comme on a pu voir avec les Johannins dernièrement, comme on peut le voir au cinéma avec l'époque, comme on peut le voir. Bon, c'est une espèce de mouvance qui existe, à laquelle je peux être sensible, tout à fait, mais qui potentiellement est peut-être un peu dangereuse, je pense, pour la jeunesse qui va être attirée par ces livres-là, parce que c'est tellement d'une certaine manière beau et berçant, que finalement on peut se laisser aller dans cette espèce de complaisance dans la merditude du monde qui me dérange un petit peu.
Est-ce que ce serait de la fausse transgression? Mais là j'en viens au petit salon
suite au prochain épisode.
Clémence Pouletti, par rapport à ce que vient de dire Jean-Christophe Briançon.
Oui, je ne suis pas totalement d'accord, au contraire, je trouve une certaine aussi nécessité pour le lecteur et pour le lecteur dans sa grande majorité. Parce que, je pense que c'est aussi important de le lire quand on n'a pas conscience réellement de ce qui se passe pour une femme. Je suis la seule ici ce soir, mais enfin, je me suis pas mal reconnue dans certains textes, dans certains sentiments. C'est pour ça aussi que c'était douloureux à lire. Et je pense que c'est important aussi pour la jeunesse. Et quand vous dites que c'est beau et complaisant, la merditude du monde, je ne suis pas complètement d'accord. On peut au contraire le lire, se dire, ah, il faut peut-être que ça change un petit peu. Même si je ne suis pas... Là, j'ai du mal aussi à le défendre parce que...
C'est tellement beau d'en faire le récit des choses qui vont mal.
Non, moi, je suis d'accord avec Clément, c'est quelque chose de douloureux, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit un être humain.
Oui.
C'est à peu près notre cas à tous. J'espère dans ce studio, et même de l'autre côté de la vitre, c'est pour vous dire. Moi, il y a des choses qui sont extrêmement douloureuses à lire, enfin, qui font violence au lecteur. Et ce n'est pas inutile aussi que cette littérature-là existe.
Non, inutile, j'ai jamais utilisé le mot inutile, et je ne le dirai absolument pas. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez sur le fait d'être homme ou femme face à ce livre... enfin, en tant qu'homme, en tout cas, j'ai, et c'est là que se situe peut-être, hein, vraiment peut-être, le danger, c'est que j'ai pris un plaisir fou à le lire. Et je l'ai lu d'une traite, très rapidement. Moi, j'ai pas eu besoin de césure. Je l'ai lu d'une traite parce que j'ai été bercé par la poésie du pire.
Je suis trop sensible, moi, pour le lire d'une traite.
C'est un côté câlinant, paradoxalement.
Ah bon, mais c'est.
Grisant, c'est vrai que ça on finit par être une sorte de tournoiement permanent comme ça.
Ça donne plutôt la nausée.
Oui, complètement. Voilà. J'ai eu la nausée aussi.
C'est les moments où les moi, nous sommes la même femme.
Oui.
Voilà.
Non, mais ça
je dirais les choses se calment, que l'intensité est la plus forte. C'est-à-dire quand notamment il y a une vieille prostituée qui parle, qui revoit un peu sa vie. Ça, c'est des moments qui, moi, j'ai trouvé beaucoup plus intenses que des descriptions de crêtes horrifiques comme ça par moment.
Intense aussi, j'y reviens à la relation entre les femmes d'une même famille. La scène où elle...
Mère-fille, il y a des choses...
Ah mais oui, c'est ça. Hein. Et même les mères-filles dans le train, quand elle prend une conversation à la volée, j'ai beaucoup aimé ce texte. Et puis pareil, il y a un texte que j'ai beaucoup aimé, c'est celui où elle dit qu'elle rencontre un garçon avec qui elle boit des chocolats chauds dans Paris, qu'il a des lits sur sa table de chevet. Je me suis dit, faut pas le lâcher, celui-ci, il est génial. et puis bon, la fin m'a énormément déçue. Ça a été le seul texte qui m'a un peu fait respirer. Non, sous ce livre, que je peux pas croire que vous avez utilisé l'adjectif câlinant.
Ah oui, ça, moi non plus. Pour
ce livre,
mais c'est la variété des lecteurs et lectrices de cette émission. Voilà, qui en fait le gage de sa qualité. Ouais. C'est grâce à vous, bien sûr. Bon, faites-vous votre avis par vous-même sur Comme la chienne de Louise Chennevière. C'est aux éditions POL. Et c'est l'heure du coup de cœur de François Angelier pour Une guerre civile par procuration, les intellectuels français, la guerre d'Espagne de Pierre-Frédéric Charpentier aux éditions du Félin. Et c'est un sacré volume.
Absolument, François. C'est un volume qui fait près de 650 pages et le croirez-vous, ce volume comble une lacune énorme dans la bibliographie française. C'est que nous n'avions pas jusqu'à ce livre, donc de Pierre-Frédéric Charpentier, de synthèse importante, historique, sur les écrivains, les intellectuels français et la guerre d'Espagne. Alors évidemment, nous avions des histoires de la guerre d'Espagne française, Guillermet par exemple. Il y avait des chapitres Espagne extrêmement importants dans les biographies des auteurs les plus concernés, André Malraux, Mauriac, Claudel, Les Maritains, and so, Orwell, si on veut effectivement aller sortir de la francophonie. Il y a eu des histoires politiques, mais nous n'avions pas de synthèse. La précédente remontait à des années et des années, c'était le cahier de Lerne sur les écrivains à la guerre d'Espagne. Ouais. Et là, nous avons donc quelque chose de formidable, puisque à la fois on a une bibliographie extrêmement complète, c'est les intellectuels, hein, c'est-à-dire à la fois les philosophes, les écrivains, les poètes, les cinéastes et les journalistes. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui se sont, d'une certaine façon, investis dans la guerre d'Espagne à des titres divers. Il y a une chronologie très, très fouillée de dizaines de pages, quasiment semaine après semaine, ou mois après mois, qui nous présente les événements avec les grandes interventions clés. Et surtout, on découvre que la guerre d'Espagne a véritablement teinté, si j'ose dire, a véritablement magnétisé toute l'opinion politique intellectuelle française pendant 3 ans, que ce soit bien évidemment, et tout le monde était à sa position, c'est-à-dire que ce soit de l'extrême gauche anarchiste jusqu'aux staliniens, en passant par les maurassiens, les pré-fascistes ou les fascistes français de Je suis partout. Tout le monde, d'une certaine façon, a été rassemblé autour de cet événement de la guerre d'Espagne à des titres divers. Certains y sont allés et se sont engagés comme Malraux. Bon, ça, c'est l'espace, c'est l'espoir. D'autres y sont allés en tant que journalistes. Ça a été Robert Brasillac, ça a été Drieux La Rochelle. Il y a énormément d'évocations qui sont faites de journalistes qui ont laissé leur vie, que ce soit Guy de Terrancet ou des femmes journalistes aussi. Donc c'est un livre qui synthétise en suivant de manière très précise et très rigoureuse toute la chronologie, mois par mois, tout ce que, je dirais, les Français ont investi d'énergie, de fureur politique, de passion intellectuelle et de génie littéraire dans cet événement, en lien avec le terrain lui-même, aussi bien ceux qui étaient confortablement installés à Paris et qui utilisaient la guerre d'Espagne d'une certaine façon pour fourguer leur leur idéologie, aussi bien que ceux qui se sont véritablement investis à leurs risques et périls sur place, notamment quelqu'un comme Benjamin Perret, co-auteur des le surréaliste, qui est allé, qui n'a laissé aucun texte, mais qui a véritablement combattu dans une unité de l'extrême gauche espagnole. Donc véritablement, on a là un portrait précis, rigoureux, factuel, chronologique et très ouvert de ce que les intellectuels français ont eu à maille à partir et ont investi dans la guerre d'Espagne.
Un volume qu'il nous faut lire, ce livre de Pierre-Frédéric Charpentier aux éditions du Félin, son titre « Une guerre civile par procuration, les intellectuels français et la guerre d'Espagne ». Lucille Como vous a laissé les clés de son petit salon, Jean-Christophe Briançon, ce qui m'étonne de sa part. Bon, c'est pour arroser les plantes et nourrir le chat, ça c'est une chose. Mais au passage, vous ne résistez pas à l'envie de nous poser des questions.
Des questions, tout à fait. Et des questions qui vont prendre la forme d'une psychanalyse personnelle ce soir, un instant de radio.
On peut rester ou pas ?
Alors, vous pouvez, d'accord, parce que vous allez peut-être m'aider justement à résoudre plein de problèmes.
Allons-y.
Ça sera un instant de radio pour tuer le père qui fut le mien, en matière littéraire en tout cas. C'est Bret Easton Ellis dont on a parlé aujourd'hui sur France Culture dans la compagnie des auteurs.
Et on en parlera, nous, jeudi prochain, me semble-t-il, dans la dispute.
Dans les années 80, c'est un auteur américain qu'on présente aujourd'hui comme le parangon de la transgression et qui avait publié « Moins que zéro » avant de jeter au monde en 91 cette déclaration d'amour dont chaque mot résonne encore aujourd'hui comme le bruit d'une alarme que nous n'aurions pas réussi à couper, « American Psycho ». Aujourd'hui, il revient avec sa première œuvre de non-fiction, White, non-fiction ou non-fiction, puisque je sais que vous n'aimez pas les anglicismes.
J'avais raison.
Un livre comme le geste d'après la mort du roman, comme il l'a dit à nos confrères de la revue Américale il y a quelques semaines. Dans ce livre, que la quatrième de couverture nous présente comme le versant littéraire d'un geste warholien dont le but serait de tout dire sur rien et de ne rien dire sur tout, l'auteur se lance en éditorialiste du siècle dont les pensées ici écrites découlent en fin de compte d'entretiens radio réalisés les années passées sur Internet. Mais alors une fois refermées les pages de cet essai, on se pose quand même une question. Que peut faire encore la littérature quand il s'agit de bouleverser le monde, puisqu'apparemment Bret Easton Ellis s'est défait de l'exercice littéraire. À lire entre les lignes et les pensées de l'auteur, on serait tenté de se dire que rien, que la littérature ne peut rien. Et c'est triste puisqu'il s'agit là de la dernière création d'un auteur qui, toute sa jeunesse, a passé son temps à prouver qu'elle pouvait faire trembler la terre et les certitudes de ceux qui la polluent. Triste donc, mais inquiétant surtout, puisqu'à en croire un autre ouvrage, paru il y a peu et écrit par l'universitaire controversée Isabelle Barberis, le champ culturel, dont la littérature fait partie, serait la chambre d'incubation du monde, un endroit où les grands bouleversements humains prennent forme pour nous faire avancer. Dans ce même ouvrage, la maîtresse de conférence à l'université Paris Diderot nous explique avec un certain cynisme que tout cela serait le fruit d'une dynamique, pour ainsi dire, implacable, qui verrait le politiquement correct avoir gagné la guerre des idées pour désormais former ce qu'elle appelle un nouvel académisme culturel, lequel obligerait l'être humain à errer pour quelques millions d'années encore sur les terres d'un monde recouvert de la boue de ce qu'elle appelle la bienséance. Une idéologie décliniste à laquelle je suis bien loin de souscrire, mais qu'il n'est pas évident de contredire alors que Bret Easton Ellis lui-même vient de lâcher la rampe de cette littérature rédemptrice parce que agressive que j'aimais tant. Peut-être faut-il alors poser la question autrement et se demander si tout cela ne serait pas en fin de compte une question de langage, comme le dit Jean-Luc Godard. En effet, plutôt que d'incapacité de la littérature à transgresser, ne faudrait-il pas parler d'absence de littérature ? Autrement dit, sont rangés dans notre librairie et chez nos éditeurs sous le nom de roman et dans les rayons littérature, des livres d'auteurs qui n'écrivent pas, non, mais qui disent. Or la différence est fondamentale, comme l'expliquait le pédagogue Célestin Freinet. Entre le dit et l'écrit, on apprend l'orthographe, mais surtout on accède à la pensée. Ainsi, l'analogie est peut-être simple, mais si l'on suit son raisonnement, alors la pensée littéraire au sens du geste qui fait avancer les hommes et qui donc transgresse le présent n'est plus possible, non parce que la littérature serait épuisée de sa substance et de son possible, mais bien plutôt parce que nous ne nous en emparerions plus dans toute sa générosité. En ce cas, il conviendrait alors de contrecarrer ce monde où l'éditorialiste, après avoir pris la place du journaliste, est en train de prendre celle du romancier, et arrêter de dire pour se mettre à écrire. Écrire des mots, des phrases et travailler la forme, surtout pour transgresser et bousculer, parce que c'est fondamentalement ce que la littérature est, un contenant et non un contenu. Mais sur ce, je vous laisse me donner votre avis.
Ah, c'est ça votre psychanalyse ? Ça vous fera 100 euros, monsieur Mélenchon. Multiplié par 3, parce qu'on est 3 à vous écouter. Alors, François Angelier, élément de réponse. Où est la transgression aujourd'hui?
Où est-elle? Est-ce qu'elle existe encore, déjà? Mais si, ça, je ne peux pas dire que non.
Si c'est le producteur, de mauvais genre qui va répondre.
D'un constat simple, c'est que pour transgresser, il faut qu'il y ait encore des frontières reconnues et gardées. Et aujourd'hui, vous ne trouveriez aucun auteur qui, d'une certaine façon, serait le gardien à la frontière de la bienséance, d'une espèce de dignité culturelle, de propos quand même tenus comme ça. On est dans une sorte de tout transgressif, ce qui est totalement aberrant. Puisqu'on ne peut pas être dans le tout transgressif. Il faut bien qu'il y ait une sorte de contre-champ qui s'effectue. Et ce tout transgressif fait qu'on en arrive à une sorte de littérature qui s'arrondit et qui végète et qui sommeille. Alors ça c'est un premier élément de fond. Deuxièmement, il y a le travail de la forme qui effectivement devient, je dirais, de plus en plus plat. Il n'y a pas beaucoup de souffrance au style, quoi. Je veux dire, c'est pas un style qui est arraché, malgré que justement beaucoup d'auteurs veuillent nous communiquer cette impression qu'ils écrivent avec leurs tripes, qu'ils ont mis leur vie sur leur Moi, j'ai quand même pas ce sentiment-là. Donc, déjà, pour transgresser, il faut qu'il y ait une sorte de frontière à franchir. Et où est-elle?
Clémence Poletti.
Je suis complètement perdue.
C'est vrai.
Non, c'est vrai. Déjà, j'arrive pas tellement à comprendre finalement ce que vous entendez par transgression, parce que finalement, comme la chienne est aussi un peu transgressif, et il me semble que la littérature transgressive, elle n'est pas complètement perdue non plus. Là, je pense un peu à, par exemple, Régis Geoffrey. Enfin, pour moi, c'est transgressif aussi, et c'est pas, je sais pas comment.
Le transgressif, par définition, serait censé être quelque chose qui nous choque d'une certaine façon. Bon, et le problème, c'est que je pense qu'entre autres, avec le travail fait par Bret Easton Ellis dans les années 90, où là, à ce moment-là, cet homme nous a choqué en nous montrant ce banquier crever les yeux d'un SDF dans les rues de Manhattan. À ce moment-là, peut-être, on avait encore un petit, on va dire, une barrière morale en littérature ou même dans nos sociétés qui nous permettait d'être choqués par ça. Aujourd'hui, bon, là, Louis Chenevière, son livre, on a pu en dire ce qu'on a voulu, mais je pense jamais qu'on ait pu être choqué par son propos. Et c'est comme le disait François, c'est que peut-être le tout transgressif prévaut maintenant, ou en tout cas, nous ne pouvons pas être choqués par quoi que ce soit, puisque tout est possible, on peut dire tout ce que l'on souhaite, et tant mieux, mais une fois qu'on a pu dire tout ce que l'on souhaitait, tout a plus ou moins été dit sur la réalité de nos vies, et donc continuer à essayer de transgresser par le fond et non par la forme, c'est, selon moi, chose un peu vaine.
Mais pour moi, le choc, c'est j'essaie de réfléchir à ce que c'est vraiment que le sentiment du choc, ce qu'on ressent quand on dit « je suis choquée ». Mais c'est comme si on avait une innocence, nous sommes tous finalement un peu innocents, et que cette innocence, elle est heurtée. C'est comme si d'un coup, on perdait un peu de notre enfance, de notre pureté. Et il me semble, quand on lit comme la chienne, là, je pense à Régis Geoffrey. Pour moi, c'est totalement choquant, transgressif, par Autobiographie de Régis Geoffrey. C'est un livre qui m'a marqué depuis des années. Après, je pense aussi que c'est toute une question de sensibilité. Vous m'avez l'air bien plus
endurcie
que ma petite personne, oui.
Ouais.
Mais après, évidemment, Bret Easton Ellis, on parle d'un maître, là. Vous avez pris aussi
son autre père, nous a-t-il dit.
Voilà, mon autre père. Mais c'est aussi le problème, c'est que vous parlez d'être choqué comme s'il était question de morale. Je pense que aujourd'hui, il serait temps de ne plus essayer de choquer la morale, mais plutôt de choquer l'intellect. Et encore une fois, je reviens là-dessus, la forme. Moi, j'aimerais qu'un auteur transgresse, d'une certaine manière, transgresse la littérature, pas forcément l'idée de la morale du monde.
Mais c'est-à-dire que
transgresser sur quoi? On va me faire des histoires sur des viols sordides, je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a tout entendu de ce point de vue-là. Donc, transgressons la littérature, ce que peut être la littérature et la manière dont elle peut passer le message.
Mais vous en
que le
conviendrez, Jean-Christophe Brianchon, plus le temps passe, plus la tâche est quand même complexe de transgresser la littérature. Beaucoup de transgressions ont été faites. Où est la transgression? C'est le Marquis de Sade. Hein. Il suffit de lire ça.
Non,
alors là, pour le coup, il y a du fond, il y a de la forme, et on n'en sort pas indemne.
Et on est à un moment où le fond, il faut peut-être s'éloigner du fond pour s'attaquer à la forme. Et moi, je serais pas du tout d'accord pour parler de certains parlent de la fin de la fin de l'histoire de l'art en tant que en tant que le cycle historique quoi. C'est ce que faisait Hans Belting il y a quelques années. Aujourd'hui moi je suis pas du tout d'accord avec ça, si ce n'est de parler de fin d'histoire de l'art, justement d'arrêter de penser en termes d'historicité du geste artistique. Mais en soi jamais je pense, ou en tout cas je souhaite, jamais on arrivera à la fin de quoi que ce soit en art. Donc on a peut-être fait beaucoup de choses, mais on n'a pas du tout fait tout ce qu'on pouvait faire.
Clémence, vous voulez
Oui, réagir. Je suis curieuse. Vous parlez de changer la forme. Vous êtes choquée par la forme. Est-ce que vous avez des idées, des espèces de propositions, de solutions?
Des solutions? Je ne suis pas là pour donner des solutions.
Non, je ne suis pas auteur.
Je le ferai le jour où je publierai un livre.
Mais
en l'état actuel des choses, il arrive encore. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai apprécié d'une certaine façon Louis Senevière. C'est que à cet endroit-là dont parlait Arnaud de la ponctuation, pour moi, elle a montré quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elle a transgressé.
C'est des vieilles lunes, quand même.
Non, mais c'est des vieilles lunes. En attendant, vous avez pris le livre en nous disant « Ah, tiens, quand même, si ça avait été ponctué de manière classique, ça n'aurait pas
ça
été
m'aurait
tel
pas
quel.
Agacé.
Bon, mais donc là, en l'occurrence, on a une auteure qui a essayé. Je dis pas que c'est réussi ou pas réussi. C'est pas le problème. En tout cas, il y a une tentative formelle. Et c'est peut-être ça. Et c'est aussi là que je fais ma psychanalyse. Hein, c'est que c'est ça que je cherche en littérature. C'est de trouver des tentatives formelles.
François Angelier.
Il y a pas de vrai. Si on prend les grands transgresseurs de Sade jusqu'à, mettons, Guyotat, qui aujourd'hui ne transgresse peu, mais qui l'a beaucoup transgressé les années Guyotat, 70, il n'y a pas de vraie transgression qui passe avant tout par une transgression de la forme. Sade a transgressé, a poussé à son maximum jusqu'à l'éclatement la logique du discours des Lumières, Lautréamont avec le discours du romantisme, et puis après on peut trouver Genet par exemple en articulant le vécu des bagnards, des prostituées, des homosexuels, avec une espèce de forme qui est héritée de la poésie élisabéthaine ou de la Renaissance, c'est une forme de transgression. Guyotat, un texte pulvérisé, totalement atomique, suffocant. À chaque fois, il y a d'abord un travail un apport sur la forme qui est une transgression en soi et qui porte autre chose derrière. Et je pense que si on ne fait pas le travail insensé de s'amener à cette transgression première de la forme, Céline, parlons de Céline aussi, c'est pareil, on transgresse rien. Des histoires sordides, on peut vous en aligner des dizaines. Moi, je sais, de par mauvais genre, je vois défiler sous mes yeux des dizaines de polars, de documents, de choses qui racontent des histoires effectivement, de serial killer, de séquestration, de torture, d'abus sexuels, des choses d'une noirceur infinie. Mais la forme, il n'y en a pas. Alors évidemment, ça ressemble à un telex d'une agence de presse ou ça ressemble à un sujet d'information comme une autre. Si à partir de ce moment-là, il n'y a pas, et les grands auteurs, notamment on parle d'Elroy, on parle de Robin Cook.
Le bon.
Robin Cook,
j'étais de Rasa Suarez, c'est un des livres les plus terrifiants que j'ai
absolument,
lu sur le fond et
absolument.
La forme.
Dès la première phrase, on est pris à la gorge. Je veux dire, ça me fait penser ce roman là dont le nom m'échappe. Disait qu'on est rentré, on a assommé Monsieur White et on décidait d'attendre sa femme. Bon, c'est une espèce de phrase de rien qui immédiatement et on voit tout de suite à qui on a affaire avec ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'immédiatement on soit saisi à la gorge par la forme du texte et pas son intensité. Si on rentre dans une sorte de flux anodin, alors là c'est perdu d'avance.
Mais c'est rare, mais pour autant je suis certain que ça existe encore et que peut-être il est question d'édition aussi. Faut voir ce qui pourrait être publié, parce qu'il faut bien dire que souvent les livres et les auteurs qui travaillent la forme nous livrent des œuvres incompréhensibles, si ce n'est insupportables. Moi je suis un grand lecteur de Will Self, que j'aime beaucoup, malgré tout, ses derniers livres, Parapluie entre autres, qui est vraiment une tentative formelle très stricte et très compliquée, donne un livre absolument illisible. Pour autant, il faut absolument publier et inciter ça. Il faut qu'on continue de faire de la littérature une forme et non un fond.
Vous voulez le mot de la fin, Clémence Pouletier?
Je pensais à Hervé Guibert. Voilà. Qui lui aussi, finalement, a complètement transgressé en racontant l'agonie de Michel Foucault, en racontant la sienne. Je me suis fait rembarrer, mais je...
Oh non, pas du tout, c'est
penser.
Pas le genre de la maison.
Non, je continue. Je trouve ça hyper intéressant. Et moi, je me demande vraiment... c'est vrai qu'il y a de quoi faire une psychanalyse avec vous, Jean-Christophe, parce que je me demande vraiment ce que vous entendez et quels sont... vous devez penser à quelque chose, sûr que vous avez une attente. Et c'est parce qu'elle n'est pas comblée que vous êtes déçu. Mais par rapport à cette forme de littérature que vous voulez transgressive, je suis très curieuse. Je lâcherai pas l'affaire. Je vais vous harceler de messages pour savoir.
Bon, mais vous nous le direz à l'antenne,
bien sûr.
Bien sûr,
évidemment.
Le résultat de votre investigation. Bon, on va refermer les portes de ce petit salon qui sera repris très prochainement. par Lucille Comeau. Alors, ce soir, on ne fera pas la psychanalyse de Joséphine Dumoulin. On va se contenter de l'entendre nous rappeler la question du jeu de la dispute d'hier soir pour nous donner sa réponse ensuite, dans un premier temps.
La question était dans quelle école d'art se sont rencontrés les premiers peintres du mouvement Nabi, et la réponse était l'Académie Julian.
Ce soir, ma chère Joséphine, nous avons gagné des catalogues de l'exposition Rouge, Art et Utopie au pays des Soviets. C'est une expo qu'on peut voir jusqu'au 1er juillet au Grand Palais à Paris. Quelle est la question ?
Quelle toile, datée de 1921, fut qualifiée par le critique d'art Nikolai Tarabukine de dernier tableau créé par un peintre ?
Si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinault, Jean-Christophe Brianchon et Joséphine Dumoulin. Prise de son Ludovic Auger, réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, une dispute cinéma. Nous serons, comme chaque vendredi, en public au Bel Air, le bar de la maison de la radio. En compagnie demain de Muriel Joudet, Thierry Chaise et Antoine Guillot, à notre affiche, nous finirons ensemble de Guillaume Canet, Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, Tremblement de Jairo Bustamante, il y aura un coup de cœur de Thierry Chaise pour Gloria Belle de Sébastien Lelio.